Merci d'être là. Donc, je vais vous parler des rapports entre l'expertise et les controverses, c'est-à-dire en fait les rapports entre la science et la société. Et pour vous parler de ça, je vais développer 5 points et après nous ouvrirons la discussion. D'abord, un point d'histoire, c'est très simple. L'histoire des sciences, et même je dirais l'histoire des sciences et des techniques, est toujours une histoire de conflit. Les sciences, comme l'ensemble des connaissances, avancent par des rapports de force, par des affrontements, ce qui est tout à fait normal. Et quand on fait l'histoire des sciences, on la fait la plupart du temps rétrospectivement, et là, les choses apparaissent rationnelles et harmonieuses, alors qu'en fait, à l'instant T, que vous soyez au XVIe, au XVIIe, au XVIIIe, au XXe, au XXIe siècle, les scientifiques, les universitaires, le monde académique, et c'est tout à fait normal, est un monde qui est traversé de conflits, d'intérêts. Alors, je ne parle pas des intérêts politiques, économiques, mais je parle des intérêts de connaissance, parce que les théories ne sont pas les mêmes. Donc, il y a toujours des controverses scientifiques. Ce qui est nouveau dans l'histoire, et j'y reviendrai, c'est le fait qu'on sollicite les chercheurs ou les communautés scientifiques pour avoir une fonction d'expertise. Ça, c'est relativement nouveau. C'est dû au fait que la science a pris depuis, en gros, la Première Guerre mondiale, une place de plus en plus grande dans l'économie et dans la politique. Donc l'histoire des sciences et des techniques, c'est toujours une histoire controversée. D'ailleurs, c'est toujours intéressant de regarder le point de vue des perdants dans la théorie des connaissances. Parce que souvent, ça, du point de vue de l'imaginaire, des représentations de l'histoire, il y a, je trouve, des choses qui sont souvent très intéressantes pour comprendre le contexte d'une époque. Quant à la logique de l'expertise, c'est quoi recourir aux scientifiques dans l'expertise? C'est en fait, on recourt à eux quand il y a un conflit de valeurs ou d'intérêts scientifiques, et que les politiques, puisqu'en définitive, tout ça n'est apparu qu'après l'insertion de la science dans la politique, en gros à partir des années 15-20, les politiques n'arrivent pas à choisir entre plusieurs conceptions d'un problème scientifique-technique et demandent l'arbitrage des scientifiques eux-mêmes. Donc la plupart du temps, le recours à l'expertise est un moyen de trancher un antagonisme entre plusieurs points de vue, dont très souvent ces points de vue sont liés eux-mêmes à des intérêts scientifiques. Donc, les scientifiques se trouvent à la fois en situation d'arbitre, d'experts, et souvent de partie prenante. Donc, c'est pas simple. Donc, de mon point de vue, les questions d'expertise et de controverse vont être de plus en plus nombreuses dans nos sociétés. Et pourquoi je relis les deux? C'est parce que ce qui apparaît publiquement, vous n'avez qu'à penser à ce qui s'est joué sur le réchauffement du climat ou ce qui s'est joué sur les OGM, comme exemple récent, on voit apparaître dans l'espace public des controverses entre scientifiques. Du coup, on comprend bien que les scientifiques ne sont pas d'accord entre eux, que les intérêts sont contradictoires. Et simultanément, les pouvoirs publics disent « Bon, ben, ils sont bien mignons, ces scientifiques, mais nous, on veut bien y voir clair. » Donc, ils font appel à des scientifiques pour faire des expertises, pour essayer de dégager les points de vue contradictoires qui sont vivants au sein des controverses. Donc, c'est pour ça que je pense que les deux sont liés. Plus il y a de controverses, plus il y a de recours à de l'expertise. Avec cette ambiguïté fondamentale, c'est que les experts sont souvent les mêmes acteurs que ceux qui sont engagés dans les controverses. Vous avez vu un exemple typique en France il n'y a pas longtemps, où face à la polémique et à la controverse sur le réchauffement climatique, la ministre de la Recherche qui a été saisie par un des deux camps a dit « Écoutez, moi, au bout d'un moment, je n'ai pas de position là-dessus parce que je ne suis pas spécialiste, donc je demande à l'Académie des sciences de trancher. » Et il s'est passé ces choses étranges, c'est qu'alors que la controverse est publique, politique, idéologique même, l'Académie des sciences a dit « Ok, on prend le sujet, mais surtout, on va en parler en fermant les portes. » Et l'Académie des sciences a débattu de la question du réchauffement climatique entre elles, comme si on était encore dans un modèle 17e ou 18e siècle où les scientifiques pouvaient un jour s'enfermer tout seuls entre eux et dire la vérité à la sortie. D'ailleurs, pour ceux qui ont suivi cette controverse qui n'est pas finie, l'avis de l'Académie des sciences, c'est peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Enfin, ils ont une prudence de cardinaux, quoi. Parce qu'évidemment, les enjeux ne sont pas terminés. Donc c'est dire qu'au bout d'un moment, et ça c'est franchement un phénomène nouveau des rapports entre la science et la société, nous serons de plus en plus avec l'écologie, mais pas seulement avec les nanotechnologies aussi, avec tout ce qui concerne le vivant, etc. Nous serons de plus en plus dans des controverses, parce que alors, ces controverses sont en fait des points de vue contradictoires sur l'état d'avancement des connaissances. Donc pour moi, le fait qu'il y ait des controverses, ce n'est pas un handicap. C'est simplement là, le fait que les sciences sont de plus en plus visibles, de plus en plus présentes dans l'espace public, et qu'on demande aux scientifiques des comptes, ou on leur demande de s'engager ou de refuser. D'ailleurs, il n'y a pas seulement des enjeux scientifiques, parce que sur le climat, comme sur les OGM, comme sur le vivant, comme sur les tas de domaines, on sait très bien qu'au bout d'un moment, derrière les conflits scientifiques se trouvent aussi des conflits d'intérêts économiques, puisque la science est toujours liée à les techniques, à l'économie et à la politique. Donc, de ce point de vue-là, ces questions de rapport entre expertise et controverse sont, à mon avis, bien symptomatiques du changement de la place des sciences dans la société. Alors, les cinq points que je vais développer, c'est le premier. Faisons la liste, elle est très rapide, des changements, des relations entre science et société. Hier, en gros, jusqu'au début 20e, le monde scientifique, ou le monde académique si on veut, vivait à part, pas forcément dans sa tour d'ivoire, mais en tout cas était relativement séparé du fonctionnement normal de la société. Aujourd'hui, au contraire, les interactions sont beaucoup plus nombreuses, pour deux raisons qui sont relativement contradictoires. Un, les scientifiques, au titre de l'idée de la démocratie, essaient d'expliquer ce qu'ils font au grand public. Donc les scientifiques eux-mêmes descendent dans l'arène publique, c'est ce qu'on appelle la grande tradition de la vulgarisation scientifique. Et les plus grandes encyclopédies, les plus grands tirages d'encyclopédies scientifiques et techniques de vulgarisation ont été publiés avant la guerre de 14. Donc nonobstant le fait qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui savaient lire encore en 14, c'est quand même la période où il y a eu le plus d'encyclopédie de vulgarisation. Donc c'est bon à savoir, parce que ça veut dire qu'en définitive, la vulgarisation, c'est la grande idée des rapports entre science et société. La deuxième raison pour laquelle l'interaction est beaucoup plus grande entre scientifiques et société, c'est que nos sociétés, nous demandons des comptes aux scientifiques. Parce que, c'est l'argent public, en gros, qui fait vivre les sciences. Et deux, au titre de la démocratie, on demande de temps en temps des comptes ou des explications au monde scientifique. Donc à la fois que ce soit les scientifiques qui veulent expliquer ce qu'ils font pour avoir plus de confiance de la société d'une part, ou d'autre part la société qui demande des comptes aux scientifiques, les interactions sont beaucoup plus nombreuses aujourd'hui qu'hier. La deuxième cause, c'est que, en gros, jusqu'à la guerre de 14, la science était le progrès. C'est quand même tout cet immense mouvement scientiste qui, en gros, du XVIIIe siècle jusqu'à 1914, a identifié la science au progrès. Et puis, la guerre de 14 est une barbarie effrayante, où pour la première fois, on a rapproché science, technique et société. Et à partir de 14, une suspicion s'est installée sur l'identification de la science au progrès. Et cette identification est encore plus mise en cause avec deux choses. Un, la bombe atomique, fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et deux, naturellement, le génie génétique s'est mis à tripatouiller nos cellules. Et donc, se pose la question, jusqu'où et comment commence l'homme, jusqu'où est-ce que les scientifiques ont-ils le droit de travailler, etc. Donc, de la bombe atomique pour aller vite jusqu'au génie génétique, ces deux grandes ruptures entre 1945 et 1970-80 ont montré définitivement que la science n'était pas seulement le progrès, et qu'elle pouvait faire le pire comme faire le bien. Et simultanément à cette prise de conscience, nous avons assisté pendant les 80 années à un effondrement de deux grandes valeurs qui structuraient la conscience du monde, les valeurs religieuses. Elles reviennent aujourd'hui, mais elles ne restructurent pas le monde comme il était restructuré autrefois. Autrement dit, même s'il y a un retour du religieux visible partout, on n'accorde pas systématiquement aux religieux la possibilité de donner le vrai ou le faux sur les sciences. Donc il y a, d'une part, le fait que, un effondrement des valeurs religieuses et également quand même un effondrement des valeurs politiques. Parce que qu'est-ce qui sous-tendait une bonne partie de la course à la science, à la technique, depuis 1945-47 et jusqu'à la chute du communisme, c'est qu'en fait, il y avait l'affrontement de deux modèles et que les deux modèles faisaient appel à la science pour dessiner un avenir meilleur. C'est comme ça que les Russes ont envoyé avant les Américains le premier Spoutnik, que les Américains ont réagi en envoyant avant les Russes un homme dans l'espace, etc. Donc il y avait une concurrence des deux systèmes sur la place et l'importance de la science et de la technique. L'effondrement du système soviétique, la globalisation, la mondialisation, qui est essentiellement une logique de concurrence économique, a beau mettre en avant les valeurs de la connaissance, on sent bien que c'est des rapports de puissance, mais pas des rapports d'intérêt général. Donc c'est la deuxième raison pour laquelle, en définitive, la science, d'une certaine manière, n'est plus sur ce piédestal. Et simultanément, comme il n'y a plus de grandes valeurs religieuses et comme il n'y a plus de grands affrontements idéologiques, simultanément, les sciences restent quand même un grand facteur d'espoir. Quand on fait des enquêtes d'opinion qualitatives ou quantitatives, ressortent quand même que les gens croient aux sciences. Ils pensent que les universitaires et les chercheurs sont plutôt des gens honnêtes, ce qui est vrai, pas trop dominés par les logiques d'argent, ce qui est vrai. Ils peuvent avoir des conflits scientifiques entre eux puissants, mais pas forcément des conflits d'argent. Et qu'en définitive, encore heureux qu'il y a la recherche scientifique pour améliorer la santé, pour améliorer l'écologie, pour améliorer, etc. Donc à la fois il y a de la peur, de la suspicion, et quand même encore de l'adhésion. Troisième facteur de changement, qui explique que la science n'est plus du tout dans cette position d'autonomie qu'elle avait longtemps, c'est que le niveau d'éducation, d'information et de connaissance du monde a augmenté par tout le monde. Les gens voyagent beaucoup plus qu'autrefois. Il y a toujours un poste de radio qui traîne quelque part, une radio, une télévision. On est tout courant des grandes découvertes scientifiques et techniques. Bref, vous et moi, les citoyens du monde, sont beaucoup plus cultivés qu'il y a 100 ans, donc nécessairement plus critiques à l'égard de tout. Surtout qu'en plus, ils ont un background, enfin, derrière le cerveau, la tragédie de la bombe atomique, les discussions contradictoires sur l'environnement, les discussions contradictoires sur les nanotechnologies, les discussions contradictoires sur le génie génétique. Donc le niveau culturel d'information mondiale augmente, donc avec lui, naturellement, la dimension critique. Quatrième raison qui explique le changement du rapport science-société, c'est que, comme la science et la technique sont aujourd'hui très proches du pouvoir politique et économique, eh bien, ça devient un secteur comme un autre. Autrement dit, on sait très bien qu'on ne peut pas avancer dans l'aéronautique, dans le spatial, dans l'énergie, dans l'environnement, même dans l'urbanisme, etc., sans tenir compte des progrès scientifiques et techniques. Donc, les progrès scientifiques et techniques, eux-mêmes, se rapprochent de la logique économique. Donc, la science et la technique n'est plus uniquement dans le domaine de la connaissance, de la pureté du savoir. Il est directement impliqué dans la dynamique économique, donc dans les rapports de force politique. Et d'ailleurs, on a tendance à mesurer la concurrence internationale au nombre de prix Nobel des grands pays. Hein ? Avec ce fameux classement de Shanghai qu'il a fallu attendre au moins 4-5 ans pour contester, pour qu'on s'aperçoive que les critères pris par le classement de Shanghai n'avaient rien d'universel, mais représentaient une certaine conception des rapports entre sciences, techniques et société, et que si on prenait d'autres critères, on n'arrivait pas du tout. Donc les enjeux de la science et des communautés scientifiques dans le monde, avec notamment comme symbole cette histoire du classement de Shanghai, illustre bien le fait qu'on n'est plus dans un univers de la connaissance gratuit, on est dans des rapports de force. Et ce qu'on appelle l'exode des cerveaux est évidemment un enjeu politique majeur. Il y a deux solutions. Ou bien on donne tous les moyens aux pays les moins pauvres, les pays les plus pauvres, de développer leurs propres élites et qu'elles restent sur place pour développer naturellement leurs sciences, leurs techniques, leurs économies. Ou bien on fait ce qui s'est fait depuis le début de l'humanité, mais qui se fait maintenant à l'échelle mondiale, c'est que les grandes puissances attirent à elles les élites des pays les plus pauvres, apparemment pour uniquement les former, en réalité la plupart du temps pour les former et les garder. Alors que si c'était la générosité qui intéresse tout le monde, on accueillerait des élites pauvres et puis on dirait surtout repartez chez vous pour développer votre pays. Évidemment c'est ce qu'il dit dans le discours, mais c'est la chanson, mais ce n'est pas la réalité. Donc on sent bien que dans la connaissance mondiale, on a intérêt à avoir beaucoup plus de prix Nobel chez soi que de ne pas en avoir. Et le dernier facteur vient justement de cette question des rapports de la science et de la technique dans la mondialisation. La concurrence Nord-Sud avec l'émergence des pays du BRIC, Brésil, Russie, Inde, Chine, est telle que pour redessiner les rapports Nord-Sud, on aura bien besoin de la présence des sciences et des techniques. Donc ces cinq raisons expliquent qu'en définitive, il n'y a plus du tout l'autonomie qu'il y avait il y a encore 50-60 ans entre le monde de la connaissance et le monde de l'économie, ou le monde de l'information, ou le monde de la politique. Deuxième chose que je voulais dire, cette place grandissante pour les cinq raisons que je viens d'évoquer rapidement augmente, un, la visibilité de la place des scientifiques dans le monde, deux, augmente naturellement les controverses, puisque c'est des rapports de force. Quand un pays comme l'Angleterre, la France dit « Écoutez, nos élites ne doivent pas partir là-bas, qu'est-ce qu'on peut faire pour les retenir ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir des prix Nobel ? Qu'est-ce qu'on peut faire contre l'espionnage scientifique mondial ?» qui marche très bien. C'est comme l'espionnage industriel. Donc là, vous avez des rapports de force, des controverses, et vous savez par exemple que pour fabriquer un prix Nobel, ben, en gros, c'est une bataille de 15 ans, et que dans cette bataille des prix Nobel, c'est pas d'un seul coup l'académie de Moslo qui... Par un travail sage et bien mignon, dit bah tiens, c'est finalement M. Dupont en médecine, en chimie. C'est que c'est une concurrence féroce des scientifiques avec l'appui des États. Parce que naturellement, on préfère avoir des prix Nobel que de ne pas en avoir. Donc, ceci augmente le nombre des controverses et par contre-coup, augmente le nombre des expertises. Parce qu'il y a certaines controverses qu'on essaie d'étouffer, d'autres qu'on essaie de mettre en valeur. Dans tous les cas, il faut bien de temps en temps avoir des espèces de métronomes qui sonne la fin de la récréation, d'où la logique de l'expertise. Et c'est là où c'est intéressant pour nous, le monde académique, c'est qu'à la fois, on est les acteurs des controverses, et nous sommes simultanément les acteurs requis pour pour faire l'expertise, de dissocier ce qui est vrai, de ce qui est faux, de ce qui est scientifique, pas scientifique, de ce qui est économique, de ce qui est politique, culturel. Et cette ambivalence, ambiguïté, entre la même présence des scientifiques pour être à la fois au cœur des controverses et pour être requis pour faire l'expertise, est une ambiguïté, comment dirais-je, indépassable d'un point de vue logique. On aura toujours cette contradiction. Donc la quatrième idée, c'est que nous, scientifiques, nous, universitaires, nous allons devoir apprendre à faire deux choses qui sont parfois contradictoires. Un, accepter de descendre dans l'arène de la politique ou des médias ou de l'économie, c'est-à-dire devenir des acteurs à part entière, ce que nous ne voulions pas faire. Être capable de savoir quand est-ce qu'on accepte la logique de l'expertise, quand est-ce qu'on la refuse. Donc avoir une nouvelle déontologie beaucoup plus large, beaucoup plus compliquée. Et simultanément, être capable de dire, à partir de tel moment de ma vie, ou de tel type de connaissances que je sais, que je connais ou je ne connais pas, ou le type de rapport de force dans lequel je peux m'inscrire ou ne pas m'inscrire, je me retire du monde pour travailler, parce que si on vit constamment sous la pression du monde extérieur, politique, économie, médias, on ne peut pas travailler. Donc nous allons apprendre à gérer, et on ne pourra pas dire que quand on est dans l'espace-temps de la société, on ne s'occupe pas de la connaissance, parce que ça continue quand même, et à l'inverse, on ne pourra pas non plus dire quand on est réfugié dans nos laboratoires, écoutez, on s'en fout de la société, parce que la société, on ne l'arrête pas en appuyant sur un bouton. Les enjeux mondiaux de paix, de guerre, de concurrence, d'espionnage continuent. Donc on sera obligé d'avoir deux cerveaux en permanence, un cerveau qui est qu'est-ce que je fais? Quelle est ma responsabilité sociale? Quand est-ce que je dois intervenir publiquement? Écrire des journaux, signer des pétitions, m'engager, dire non. Et à partir de quel moment est-ce que de toute façon, il faut qu'on me foute la paix? Parce que si je passe mon temps à faire ça, je ne fais plus de science. Donc, tout le monde sera obligé de faire ça. Et je dis aux jeunes générations qui rentrent dans l'université ou dans la recherche, ne vous y trompez pas, l'idéal d'une communauté scientifique extérieure au monde de la société qui tranquillement fait son boulot, ça n'a jamais existé et c'est fini. La communauté scientifique a toujours été une cour de récréation où les gens se tiraient les cheveux, la concurrence des scientifiques entre eux. Mais là, maintenant, en plus, ils ont l'air tirés avec la société. Donc l'enjeu de tout ça, c'est que l'enjeu pratique, empirique, c'est comment est-ce que les communautés scientifiques vont-elles pouvoir apprendre à faire ces deux dimensions, conserver la logique de la connaissance et être capable d'entrer dans la société. Donc ce qui est posé comme question là, c'est que va devenir la communauté scientifique, les communautés universitaires au sens large. Comment vont-elles gérer ces deux dimensions? Et surtout, comment va-t-on pouvoir conserver un minimum d'autonomie au monde de la connaissance? Parce que vous comprenez bien, comme on ne peut plus être complètement dans les nuages, mais qu'on ne peut pas non plus être complètement dans la société, la tentation, c'est évidemment de tomber de plus en plus dans la société. Et plus on tombe dans la société, tomber, le mot est mal choisi, plus on rejoint la société, plus naturellement la dilution du monde de la connaissance sera visible. Le risque un jour, c'est qu'on dit qu'il n'y a pas de différence entre un universitaire, un journaliste, un politique, un entrepreneur, etc. etc. Et c'est vrai que pour une part, il n'y a pas de différence. Pour une autre part, une différence fondamentale. Donc, dernier point, et j'en aurai fini dans ma présentation. Le dernier point, c'est qu'en fait, pour sauvegarder cette autonomie de la communauté scientifique tiraillée entre ces deux rôles, qui sont d'une certaine manière aujourd'hui constitutifs du monde scientifique et académique, nous allons être obligés de gérer trois logiques. Premièrement, la logique traditionnelle qui est celle des connaissances. Deuxièmement, ça c'est le fondement du monde académique. Deuxièmement, la logique de l'information, c'est-à-dire être capable de donner des informations, de discuter avec des politiques, avec des chefs d'entreprise, avec des ONG, avec des organisations internationales, sans avoir la protection d'être un scientifique, on le sera. Mais on ne sera pas forcément reconnu parce qu'on est scientifique comme étant celui qui a raison. Et donc, après la logique de la connaissance, la logique de l'information, il faudra qu'on apprenne la logique de la communication. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'on admette que nous avons un point de vue sur le monde qui est différent des autres, différent des politiques, différent des religieux, différent des journalistes, différent des acteurs économiques. Mais que cependant, ce n'est pas parce que nous sommes du côté de la connaissance que nous avons raison. Donc nous allons être obligés d'entrer dans une logique de la communication, c'est-à-dire finalement de la négociation des points de vue différents. Les universitaires ne seront plus au-dessus, il ne faut pas non plus qu'ils soient en dessous, mais ils seront obligés de se battre beaucoup pour qu'on reconnaisse la spécificité de leur point de vue sur le monde. Spécificité qui ne sera pas forcément reconnue comme étant supérieure au reste, pas du tout, mais comme étant le respect d'une forme d'altérité. Et c'est pour ça que je pense que la chose la plus dure, mais c'est le même problème pour les, pour le monde médical, c'est le même problème pour le monde professoral, c'est le même problème d'une certaine manière pour le monde religieux. C'est comment être dans la société, tout en gardant la différence de nature qui représente le fait d'être artiste, d'être religieux, d'être militaire, d'être scientifique. Il n'y a plus la protection d'autrefois. On n'a pas non plus à être amené à la catégorie des citoyens ordinaires. Nous n'avons aucune supériorité sur les autres. Simplement, la vision du monde que nous avons est différente. Et pour faire respecter cette vision du monde, nous serons obligés beaucoup plus qu'autrefois de négocier et de montrer patte blanche. Parce qu'on ne croira pas sur mesure avec notre bonne tête. Thomas dit, dans un cas comme la France qui est typique, où quand un gosse à 23 ans, 25 ans réussit un concours avec une agrégation ou un diplôme de Polytechnique ou de l'ENA, et qu'en gros ça le protégeait pour sa vie entière, bah ça va peut-être encore durer 10-15 ans parce qu'on est très attaché, mais au bout d'un moment, tout se renégociera. Autrement dit, il n'y aura pas de protection a priori. Un agrégé de physique de normale sup, pour prendre un des exemples de la mythologie universitaire, quand j'ai mythologie, ce n'est pas péjoratif, au bout d'un moment, ça ne lui suffira pas pour faire carrière ou pour considérer qu'il a toujours raison parce qu'il a fait la grecque de normale sup en 1958, ou en 82, ou en 2012. Donc ça veut dire que la principale difficulté, à mon avis, pour le monde scientifique, ça va être d'apprendre à communiquer, c'est-à-dire à négocier. À négocier avec des gens qui n'ont pas les mêmes valeurs que lui et qui, en gros, n'ont pas l'intention de respecter les scientifiques sous prétexte qu'ils sont scientifiques. Et la même question se pose. Prenons un groupe social qui a perdu cette bataille, parce qu'on n'est pas les seuls à la mener, c'est le monde de la médecine. Le monde de la médecine, pendant très longtemps, a bénéficié quand même d'un immense prestige parce que, en gros, la médecine, c'est ce qui gérait la question du rapport à la mort, ce qui n'a pas changé. Mais avec l'élévation du niveau de vie, les luttes pour la sécurité sociale, l'économie de la santé, etc., etc., la spécificité que représentait le médecin, qui est de dire, écoutez, je vous emmerde, parce que c'est quand même moi qui, au bout d'un moment, va gérer votre santé et votre mort, cet argument qui faisait qu'au bout d'un moment, on le respectait, le médecin, il est même plus respectable aujourd'hui. On dit, ah, vous n'êtes finalement pas un bon médecin, etc. Et le monde médical a perdu cette bataille symbolique, parce qu'on a identifié le monde médical à des privilèges financiers, qui bien sûr existent, mais pas toujours. Et qu'en tout cas, au-delà d'un certain nombre de privilèges économiques et sociaux qu'avait le monde médical, il portait des valeurs qui n'avaient rien à voir avec la société, qui était la question de la vie et de la mort. Et le paradoxe, c'est que le jour où la religion s'est sécularisée, c'est-à-dire on a retiré à la religion le pouvoir de gérer la question de la vie et de la mort, ce n'est pas forcément le monde médical qui en a profité. L'humanisme médical n'a pas profité de la régression du pouvoir religieux. Et après 20-30 ans où, en fait, on a cru que le pouvoir médical allait pouvoir bénéficier de la décélération de l'influence du modèle religieux, il a lui-même été attaqué. Et aujourd'hui, en Occident, nous sommes dans un univers culturel où on est un peu complètement désemparé parce que plus personne ne gère la mort, nos sociétés ne veulent pas le voir. Je prends l'exemple d'un autre métier que la science parce que c'est caractéristique. Donc quand ils ne sont pas trop vieux, on met les vieux dans les pensions de famille, etc. Et puis quand ils sont très vieux, on les met dans des mouroirs. Puis on se débrouille pour que la mort soit éliminée de notre société. Et on ne valorise pas davantage pour autant le monde médical qui, lui, par les progrès de la science, de la pharmacologie, etc., permet quand même de maintenir en vie des gens beaucoup plus longtemps. Il y avait un autre groupe professionnel qui était dans la même décélération, mais qui était en train de repartir, c'est le monde des religieux. Jusqu'il y a 15-20 ans, on était persuadé qu'avec la sécularisation de la société, la croissance des connaissances scientifiques, techniques, le désarroi à l'égard des guerres mondiales, etc., donc le discours, le pouvoir religieux allait. Et c'est vrai que pendant de 1920, disons, à 1980-2000, la vision religieuse du monde a quand même eu tendance à... Ben là, on est contraire, en train de constater un retour, parce que, bizarrement, les êtres humains, même s'ils sont athées, ne peuvent pas se passer d'une problématique religieuse. Du coup, ça ne veut pas dire que le pouvoir religieux retrouva la force qu'il avait autrefois. Pas du tout. Quand vous voyez un évêque ou un archevêque aujourd'hui, bah, en gros, il est devenu extrêmement modeste. Il ne peut plus imposer grand-chose. Lui aussi passe son temps à négocier. Et ce qui est intéressant dans cette négociation, c'est que dans la négociation, il ne s'agit pas d'abandonner. C'est pour ça que c'est intéressant les rapports expertise et controverse par rapport à l'avenir science-société. C'est qu'il ne s'agit pas d'abandonner son identité, mais il faut défendre son os. Et ça va demander d'inventer des arguments différents. En tout cas, l'argument d'autorité ne suffira plus. Voilà. Et c'est quand même un argument d'autorité qui a marché pour la science, en gros du 16e à partir de Galilée jusqu'aux années 2000, 2010, 2000, 2000, 1980, 1970. Donc, expertise et controverse sont en fait la pointe visible de l'iceberg, l'iceberg étant le basculement des rapports science-société et du fait qu'à la fois, il y a une méfiance maintenant à l'égard des sciences et des techniques, en même temps, c'est les seules valeurs qui nous restent pour croire au progrès, et en même temps, on demande des comptes aux scientifiques, parce qu'ils sont plus au-dessus. Et eux, dans leur très grande majorité, ne sont pas du tout préparés à ce changement de rôle, puisqu'en gros, leur première réflexion, c'est « Oh là, putain, ils me font chier. Je ne veux pas discuter avec eux, ils ne comprennent rien de ce que je fais. » Et ils repartent dans la montagne. Le problème, c'est que tout le monde s'en fout qu'ils sont dans la montagne maintenant. Surtout qu'on leur demande de redescendre très vite. Et comme pour les crédits, par exemple, ils sont obligés de redescendre tout de suite, parce que la recherche coûte de plus en plus cher, et qu'il faut se battre pour avoir des crédits publics, et naturellement de plus en plus des crédits privés. La question, par exemple, pour le monde de la connaissance, c'est... va-t-il y avoir encore suffisamment d'argent indépendant de l'économie pour faire de la recherche ? Ou bien finalement, la recherche deviendra-t-elle uniquement une activité économique ? Et du coup, il n'y aura plus de définition de l'intérêt général. Donc la question qui est posée par le monde de la médecine, ou le monde de la science, ou le monde de la religion, ou le monde de l'art, si on prenait le monde de l'art qui est complètement saisi par la spéculation depuis 30 ans, ben, ces grandes valeurs peuvent-elles conserver une valeur de des dimensions d'intérêt général ? Au-delà de l'économie et de la politique, ou bien est-ce que tout, finalement, veut dire économie et politique ? Et là, pour les sciences, vous le voyez, tout, si vous prenez l'Europe, et la France est même quasiment une caricature de ça, tous les princes qui nous gouvernent, qui se succèdent de droite ou de gauche, ont leurs amis, conseillers, scientifiques de droite ou de gauche. Ça change, évidemment. Et ce qui est pathétique à voir, c'est comment ces scientifiques plus ou moins de haut niveau qui deviennent des conseillers du prince font des fois des bêtises invraisemblables. Mais comme ils sont proches du pouvoir... Bingo, ça passe. Ils se battent même pour être le nouveau conseiller du prince. Et alors, le paradoxe de tout ça, pour finir, parce que comme je travaille sur la communication, c'est ça qui m'intéresse, c'est que ça ne les rend pas plus modestes, mes braves collègues, sur le fait que la communication, c'est très compliqué. On me dit, avant, si je caricature la position d'un universitaire, tant qu'il peut exister hors de l'espace public, il considère que tout ce qui est communication, c'est nul. Que les gens sont des cons, qui sont manipulés par les messages, et que finalement, la communication, c'est de la com. Quand ils commencent à avoir un peu de pouvoir, ben naturellement, ils découvrent la jouissance des médias. Parce que c'est agréable d'être appelé au téléphone pour commenter tel ou tel événement. Donc là, dans un deuxième temps, ils oublient complètement que tout ça, c'est nul, parce que eux, naturellement, c'est eux qui parlent. Puisque ce sont eux qui parlent, ils pensent que naturellement, cette fois-ci, les récepteurs vont les écouter. Mais les récepteurs ont autant l'écoute flottante à l'égard des scientifiques qu'ils ont l'écoute flottante à l'égard des... Donc ils découvrent d'un seul coup que finalement, il ne suffit pas de parler ni de transmettre pour que ça marche. Et que si par hasard, ils remontent l'échelle du pouvoir universitaire et qu'ils se trouvent conseillers vis-à-vis d'un président de conseil régional ou d'un ministre, voire même d'un premier ministre, voire même sommet du sommet de la gloire d'un président de la République, alors là, ils basculent complètement. Ils oublient tout de leur univers mental, leur référence. Et putain de merde, est-ce qu'ils vont accepter ce que je pense ? Les Français, les Italiens, les Espagnols, les Américains. Et là, ils deviennent comme des gens tout à fait ordinaires. C'est-à-dire fini l'amour de la discussion, la tolérance à l'égard d'autrui, l'intérêt général, l'argumentation raisonnée. C'est dans le genre, putain, j'ai le pouvoir, ils ont intérêt à obéir. Et ma réforme est la meilleure des réformes. Parce qu'en gros, ça se termine par, je fais une réforme, qui sera ma réforme. Or, ce faisant, en perdant toute distance et en devenant des acteurs politiques comme les autres, les scientifiques risquent à terme de perdre exactement leur petite légitimité qui leur restait. C'est le même problème qu'on a pour faire venir un secteur, et j'arrête, sur les journalistes. Les journalistes, ils ont trois missions essentielles et difficiles, informer, enquêter, critiquer. Ils n'ont jamais été très loin du pouvoir politique, contrairement à ce qu'ils disent. Mais enfin, il y avait une forme de tradition qui disait qu'on avait intérêt à rester plus ou moins indépendant du pouvoir politique. Là, pour des raisons de pression, de plaisir, de jouissance, d'argent, d'influence, l'élite des journalistes dans le monde entier est quand même tout le temps dans une relation de plus en plus proche du pouvoir politique et économique et financier. Ce faisant, cette élite journalistique qui dirige nos médias, radio, presse écrite, télévision, internet, va se trouver dans une situation qui va de plus en plus en porte-à-faux avec l'idée de la liberté critique indépendante des journalistes. Mais vous et moi, qui voyons se comporter ces présidents de radio, de télévision, de médias, là, c'est une chaise musicale, on vient d'assister ce week-end à une autre chaise musicale, même. Il y en a un qui est parti d'un, qui est parti à l'autre. Les gens ne sont pas idiots, on est au bout d'un moment. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ils passent un journal de droite, un journal de gauche, ils passent de la radio à la télévision à Internet, et quoi ? Donc au bout d'un moment, cette espèce de, comment dirais-je, d'inclosion de l'élite journalistique dans un monde de turnover et de chaises musicales comme le pouvoir politique ou le pouvoir économique fait qu'au bout d'un moment, le public va dire, oh là, mais on n'est pas sûr qu'ils défendent tout le temps. Et la baisse de légitimité à l'égard des journalistes et des médias, d'ailleurs depuis 30 ans, il y a de plus en plus de médias, mais il y a de moins en moins de crédibilité. Alors, on peut dire, nous, les scientifiques, c'est pas grave, ça nous concerne pas, ça concerne les gens. Ben oui, non. Parce que comme demain, on va être de plus en plus dans l'arène publique. Si on est intelligent, on sera capable de marquer la ligne de démarcation, celle à partir de laquelle on ne transigerons pas, pour conserver justement notre légitimité, même discutable, mais en tout cas, une légitimité de connaissance, et non pas de défense d'intérêt. Ou bien, quelque part, saisi par la folie du dieu Hamon ou du pouvoir tout court, nous succomberons de plus en plus. Et nos oripeaux de science objective seront contestés. Alors, elles seront contestées par n'importe qui. Quand je dis n'importe qui, ce sera d'abord les étudiants. Après, ce sera des ONG. Puis après, ce sera des partis politiques. Et à ce moment-là, si la science devient uniquement une science de droite ou une science de gauche, là, quand même, on y perd beaucoup. On y perd beaucoup. Non pas qu'on était dans le paradis de l'objectivité, mais tout de même, il y avait le principe d'un minimum d'autonomie. Donc c'est pour ça que ça m'intéresse, les controverses et les expertises, parce que c'est le lieu de lecture en accéléré de questions bien plus générales qui sont en fait la modification du statut des sciences dans la société, des sciences et des techniques, parce que souvent je ne dis pas assez les mots techniques, mais parce qu'une chose qu'on oublie, c'est que dans la hiérarchie des sciences, on a souvent mis, selon le modèle positiviste, les maths, la physique en haut, puis vous savez, plus bas toutes les autres. Cette hiérarchie des sciences est largement contestable aujourd'hui. Comme est largement contestable l'idée de ce schéma qu'on avait tous appris, c'est qu'il y a d'une part le progrès scientifique, puis après il y a le progrès technique par application. Ben maintenant, quand on gratte un peu l'histoire des techniques, on s'aperçoit que c'est très souvent les techniques qui ont été premières, et que les sciences sont venues après le progrès technique sur un même sujet. Donc ça veut dire que tout se complique sur qu'est-ce que c'est que l'identité et la définition d'être une science et d'être un scientifique. Et dernière chose qui complique le statut des scientifiques aujourd'hui, qui fait qu'ils ont intérêt à mettre tout ça dans leur tête pour éviter de se faire déposséder par eux-mêmes, c'est qu'autrefois, les sciences étaient disciplinaires, en gros. Il y avait 3-4 sciences qui organisaient, puis après, il y avait des petites sciences autour. Ben là, depuis 50 ans, toutes les sciences deviennent de plus en plus interdisciplinaires. On a besoin de faire travailler ensemble plusieurs sciences pour résoudre un problème complexe. Et même le fait de faire travailler ensemble plusieurs sciences fait apparaître d'autres sciences. Du coup, l'interdisciplinarité des sciences devient une des conditions substantielles du développement des connaissances elles-mêmes. Donc, il n'y aura plus le roi de la physique, le roi de la chimie, le roi des mathématiques. Il y aura des gens qui auront fait de l'histoire et de la chimie et de la biologie. Donc, cette reconnaissance simple qu'on avait verticale, elle demeurera, les disciplines sont fondamentales, mais la plupart du temps, ce sera beaucoup plus complexe parce que ce sera mélangé avec d'autres sciences. Donc, les uns et les autres se battront pour avoir la reconnaissance symbolique. Donc, tout ça ne va pas dans le sens d'une revalorisation en soi. Ou pour le dire autrement, si on veut continuer à être respecté et qu'on ne nous range pas finalement dans un sous-programme de l'innovation scientifique et technique, il va falloir qu'on se batte beaucoup. Et pour l'instant, il faut bien dire que le monde académique n'a pas vraiment réalisé cette mutation. Il continue à vivre, et c'est un peu normal, tous les univers professionnels sont comme ça, dans une représentation qui n'est plus exacte. Et pourquoi j'ai parlé tout à l'heure de la médecine? Parce que c'est un cas assez tragique. Le monde médical s'est fait déposséder de ses valeurs, de son respect, et il ne l'a pas vu. Et ça s'est fait devant nos yeux en même pas 40 ans. Le monde médiatique est en train de se faire totalement dévaloriser. Internet va être l'accélérateur de la destruction du métier de journaliste. Et au lieu que les journalistes soient les premiers à dire « Attendez, on va faire le ménage dans tout ça » et dire ce qui fait notre grandeur de métier, pas du tout. Les pauvres journalistes dans le monde entier sont en train de courir après Internet jusqu'à reproduire les conneries de Wikileaks et à reprendre ça à leur compte. Et du coup, ça ne va faire qu'accentuer le décalage, le gap, l'écart entre les opinions publiques et la crédibilité des médias. Donc, les journalistes seront peut-être sur Wikileaks ou révélateurs ou repreneurs, mais les gens diront, de toute façon, on ne vous accorde plus de légitimité. Or, les journalistes sont les gens intéressants pour nous, parce que, si vous voulez, la légitimité d'un journaliste, elle tient à une seule chose, qui est d'une fragilité extrême, c'est la confiance qu'on a à son égard. Et la confiance, c'est que du qualitatif. Si on n'a plus confiance à l'égard d'un journaliste, il peut raconter ce qu'on veut. C'est la même chose pour la politique. Le jour où on n'a plus confiance dans un politique, qu'il soit de droite ou de gauche, il peut raconter ce qu'on veut, ça ne marche plus. Et ça fait le tapis roulant. Le problème, c'est qu'un politique, il y en a un autre qui revient, parce qu'il y a des élections, parce que c'est le fondement de la démocratie. Parce que les journalistes, c'est fragile, c'est du contre-pouvoir, il n'y a pas d'élection. Donc le jour où le manque de confiance s'installe entre le public et les journalistes, Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, s'agiter dans tous les sens, se coucher avec tous les pouvoirs, ça ne changera rien. Et Mutatis Mutandis dit, on sera dans la bataille, nous, les mêmes derrière. C'est-à-dire qu'on est plus armés, en gros, parce que la tradition de la connaissance est plus forte que la tradition de la presse. On est plus nombreux, il y a des réflexes culturels. Mais quelque part, le monde académique est un monde extrêmement fragile parce qu'on est finalement assez isolé dans le monde. On représente des valeurs qui ne sont pas les valeurs dominantes, qu'on se laisse très facilement instrumentaliser par les pouvoirs politiques quand même. Et que du coup, on risque progressivement de perdre cette petite autonomie qui nous faisait qu'on était ailleurs. Et si on n'est plus du tout ailleurs et qu'on est comme tout le monde, alors on sera l'objet des mêmes jugements que les bouchers, que les restaurateurs, que les journalistes, que les militaires, etc. Et pour finir, parce que c'est intéressant, je viens de prononcer le mot, les militaires sont des gens qui sont très en avant, je trouve, sur cette réflexion des jusqu'où faut-il aller dans la société civile, parce qu'ils étaient très au-dessus, comme avant, autrefois. Rien de pire qu'un colonel de la noblesse, hein. L'arrogance, etc., etc. Bah, ils ont tellement perdu de guerre qu'ils sont quand même devenus modestes. Ils ont tellement moins d'argent qu'ils sont devenus modestes. On les a tellement contestés en disant que les valeurs militaires, c'était ce qu'il y a de pire, que du coup, ils rament pour rester légitimes. Et que si tout le monde reconnaît la nécessité de l'armée, tout le monde reconnaît que l'armée a fait silencieusement, mais radicalement, depuis 30 ans à peu près, partout dans tous les pays occidentaux, un énorme travail pour relégitimer son rôle. Et le travail a parfois été tellement loin que les soldats se sont finalement transformés en ONG sanitaire, humanitaire, je veux dire. Ce qui n'est quand même pas exactement le rôle d'un militaire. C'est bien qu'on voit un militaire qui porte un gosse, mais si tous les militaires se mettent à porter des gosses, le jour où il faut faire la guerre, c'est pas avec un gosse qu'on fait la guerre. La guerre, c'est la guerre. Il faut tuer. Donc les armées ont fait un système de communication, ont simplifié, ont réduit leur arrogance, ont joué pas mal les ONG. Ça s'appelait les ONG, hein. C'est boum boum, il n'y a rien de plus beau qu'un militaire qui porte un bébé. On achète tout de suite, mais au bout d'un moment, ils disent « Merde, il faut quand même qu'on soit capable de faire notre job, ce qui est de tuer ». Donc ils essaient aujourd'hui de renégocier leur rôle, qui est quand même la paix et la guerre, ce pourquoi ils sont faits et ce pourquoi on n'est pas prêt à les mourir, nous. Et en même temps, ils peuvent plus se balader uniquement avec cette autorité. Donc ils sont obligés de négocier d'autres dimensions plus ou moins humanitaires. Donc je veux dire par là, ce qui arrive aux scientifiques, pour conclure, on n'est pas les seuls à qui ça arrive. Le problème, c'est qu'on est probablement, avec le monde religieux, et c'est pas étonnant que je rapproche foi et savoir, parce que c'est une bataille souvent commune et pas toujours antagonique, qui dure depuis toujours, c'est que nous avons avec les religions, les valeurs qui étaient quand même les valeurs les plus désintéressées. Voilà. Et qu'on joue gros si jamais ces valeurs de désintéressement sont vraiment effritées ou mises en cause. Et elles peuvent l'être par le simple fait que nous sommes obligés de descendre dans l'arène de plus en plus souvent. Donc, comme je vous dis, comment descendre ? En conservant non pas une armure, mais une logique, un comportement, un style qui soit capable d'expliciter simultanément que certes, on est bien obligé d'entrer dans les arbitrages, dans les expertises, dans les controverses, c'est normal, mais que quand même, on est autre chose que ça. Et toute la question, c'est est-ce qu'on sera capable de faire entendre qu'on est autre chose que ça ? Les médecins ont perdu la bataille, les juges la gagnent parce que pour l'instant, un juge, c'est un juge, il décide. Les journalistes sont comme des gosses devant un magasin de bonbons, ils ne voient pas venir le danger actuellement. Nous, on croit qu'on a l'éternité pour nous, que rien n'a changé, mais les sociétés vont de plus en plus vite. Et donc, d'une certaine manière, la question qui est posée derrière l'expertise et les controverses, c'est l'avenir de l'autonomie des communautés universitaires, des communautés académiques, et leur capacité à faire reconnaître quand même que, quelles que soient leurs qualités, leurs défauts, leur insertion dans le monde, elles sont porteuses de valeurs qui nous dépassent, ce sont des valeurs universelles, qui en fait le désir de savoir, la question de la connaissance. Voilà, j'ai fini.